Yovin, Boker Tov les Koulam, Boker Tov. Alors attendez, pourquoi est-ce que c'est la mauvaise caméra qui est dedans? Une seconde, je change de caméra. Voilà. Voilà. Yovin. Tov, alors Yovin, Boker Tov les Koulam, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes arrivés. Alors évidemment, notre étude, elle est pour la réussite de nos soldats, bien sûr, pour la guérison de tous nos blessés, et pour le retour à la maison de tous nos otages, évidemment, et l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés. Nous allons commencer donc dans notre étude sur l'histoire de la Kabbalah, mais je ne peux pas... Alors certes, j'ai envoyé une vidéo ce matin, mais j'ai envie de vous le redire quand même. Nous sommes quand même une journée très particulière, puisque... nous sommes le 7 Rejvan. Et le 7 Rejvan, ça marque deux choses. D'abord, c'est le moment où en Eretz Israël, eh bien, nous commençons à demander la pluie. C'est-à-dire que depuis Shmini Atzeret, ce jour terrible, parce que En Malasot, c'est Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret, mais chaque année, on se souviendra du drame de Shmini Atzeret. Comme on se rappelle chaque Yom Kippour de la guerre de Kippour, mais jusqu'au moment où on transformera cette douleur et cette tristesse en un grand sentiment de victoire et de nechama lorsqu'on aura réussi à gagner notre guerre jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, ça fait deux semaines qu'on rappelle la pluie en disant « Mashiv haruach umorid hageshem », mais c'est seulement aujourd'hui que nous commençons à demander la pluie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est le jour où on demande à Kadosh Baruch Hu officiellement de nous envoyer sa bénédiction, de nous envoyer sa bracha. Et est-ce que cela va correspondre avec ce qu'on appelle la deuxième étape de la guerre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous appelons de notre filote à Kadosh Baruch Hu que ce jour soit le début de la bracha pour notre peuple, pour notre réussite. Et pour le monde entier. Mais il y a une deuxième chose qui est maintenant directement liée au 7 Rejvan. Alors c'est assez récent, puisque ça a été voté seulement en 2016 par la Knesset. Le jour du 7 Rejvan, depuis maintenant 7 ans, c'est Yom HaAliyah, le jour de l'Aliyah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la loi. C'est dans la loi que le 7 Rejvan, eh bien, on doit dans les écoles et ainsi de suite parler de l'Aliyah et de l'importance de l'Aliyah dans l'État d'Israël. Alors, vous allez me dire pourquoi le 7 Rejvan? Eh bien, au départ, ils voulaient mettre cette loi-là le 10 Nissan, puisque c'est le jour où nous sommes rentrés en Israël avec Yoshua. Mais finalement, ils ont dit, oui, mais le 10 Nissan, les écoles sont déjà en vacances à cause de Pessah. Et donc, eh bien, on ne pourra pas en parler aux élèves. Donc, ils ont choisi la date du 7 Rejvan, un, pour la bracha, que représente l'Aliyah, et deux, pour la proximité de cette date avec la paracha de Lech Lecha, qui est le premier commandement d'Aliyah que Dieu va donner à Abraham. En d'autres termes, nous sommes aujourd'hui dans le jour où nous appelons la bracha d'Akadosh Baruch Hu, et peut-être que cette bracha, eh bien, va s'associer avec le retour en Israël de tous les Juifs qui sont encore en France ou ailleurs et qui n'ont pas encore pris la décision de venir. Qui sait? Après la guerre des six jours, il y a eu une énorme vague d'Aliyah car les Juifs ont compris que leur destin devait se relier à la terre d'Israël. Eh bien, après la guerre que nous allons gagner maintenant, oulaï, les Juifs du monde entier vont comprendre qu'il est temps de revenir à la maison. Le Seder. Tov, alors maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a dit ça, eh bien on peut revenir dans notre étude sur l'histoire de la Kabbalah. Et nous sommes arrêtés la semaine dernière avec la personnalité de Rabbi Nachman de Breslav. Et Rabbi Nachman de Breslav, donc on est sur la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. Et nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans les années 1780 jusqu'à 1810-15. C'est notre période aujourd'hui et nous allons nous replonger aujourd'hui dans la Chassidoute. Alors, je vous rappelle qu'il y a de cela quelque temps, on avait fait notre première immersion dans la Chassidoute. Alors, c'était déjà avant la pause estivale, on avait parlé du Baal Shem Tov et du Maguid de Meserich. Ensuite, le cours de reprise avant la guerre, eh bien, nous avions parlé de la lignée des élèves du Baal Shem Tov et du Maguid de Meserich, donc les grands fondateurs des mouvements chassidiques comme Rabbi Elimelech de Lijansk, comme Rabbi Zusha de Anipoli, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Schneur Zalman de Ladi, Rabbi Aaron Agadol Mikarlin. On avait parlé de tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous arrivons à la deuxième et troisième génération de la chassidoute. Pourquoi est-ce que c'est une génération charnière? Eh bien parce que la chassidoute va doubler de volume à ce moment-là. C'est-à-dire doubler de volume et dans le nombre de participants, de gens qui se revendiquent chassidim, mais également dans le nombre de chassidouyot. Tout d'un coup, il y a une explosion des chassidouyot et c'est à cette époque-là que vont se créer plus ou moins toutes les cours chassidiques que nous connaissons aujourd'hui. Ok ? Il faudra juste attendre encore une trentaine d'années pour voir apparaître la chassidoute de Gour, donc on n'en parlera pas tout de suite. Mais bon. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous amener en immersion dans cette époque donc de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle. Et on va commencer par un bonhomme qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, mais qui n'a rien à voir avec le Rabbi de Lubavitch. Ah ben non, parce que le Rabbi de Lubavitch, c'est le XXe siècle, donc on n'y est pas du tout encore. Non, là je parle du troisième rabbi de Chabad. Alors il ne vint pas faire une nouvelle cour chassidique, puisque Chabad a déjà commencé avec le grand-père, c'est-à-dire deux générations avant, avec Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Mais ensuite, il va avoir le gendre qui va prendre la succession à Admour, à Emtsaï, pour finalement arriver au troisième rabbi de Chabad qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch. Et ce Rabbi Menachem Mendel, qu'on appelle par le nom de son livre Tzemach Tzedek, il va écrire deux livres très importants, un Tzemach Tzedek et l'autre Derech Mitzvotecha. Dans le Tzemach Tzedek, il dévoile sa réflexion chassidique, mais dans le livre Derech Mitzvotecha, qui est un livre très important, puisqu'il va reprendre, comme le Rambam, qui avait fait le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements, où il avait passé en revue les 613 mitzvot, eh bien le Tzemach Tzedek va prendre le livre du Rambam, mais expliquer les mitzvot avec une vision chassidique. Donc donner une explication alpi à chassidut des mitzvot. Donc c'est un livre fondamental si on veut comprendre un tout petit peu ce qu'est la pensée de la chassidut au niveau de la Torah. Pas seulement au niveau de la Marshava, mais au niveau de la Torah. Quelle est l'explication chassidique de chacune des mitzvot? Est-ce que le livre Der Mitzvotecha est un livre qu'on doit étudier en premier si on veut comprendre le pshat, le sens simple des mitzvot? Bien sûr que non. C'est-à-dire que d'abord, tu dois étudier le Rambam. Ensuite, tu dois étudier le Sefer HaChinuch. Mais si tu veux comprendre quelle est l'explication chassidique des mitzvot, eh bien, le livre Der Mitzvotecha est fondamental. Et dans l'introduction de ce livre, nous dit le Tzemach Tzedek qu'il y a une notion fondamentale dans le judaïsme. Quand je dis fondamentale, c'est pour de vrai. C'est-à-dire c'est une notion qui ne prête pas à confusion dans son importance. On ne peut pas faire sans. Quelle est cette notion-là? Eh bien, elle s'appelle, Rabotai, la Bechira Achofshit, le libre arbitre. D'après le Tzemach Tzedek, et ça va être l'un des principes fondateurs du judaïsme, mais il était temps que quelqu'un le dise clairement. Et bien, d'après le Tzemach Tzedek, le libre arbitre, c'est pour de vrai. À tel point que lorsque on lui posera la question, Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Et vous comprenez tout de suite le paradoxe de la question, parce que si tu me dis oui, la question c'est, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Si tu me réponds oui, alors je te dis, ah, donc il ne peut pas la soulever. Donc tu limites la force de Dieu. Alors tu dis, ah non, alors non, il ne peut pas. Ah, donc il y a un truc que Dieu ne peut pas faire. Eh non, 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 il peut, mais... Et donc les gens, ils répondent, non, Dieu, il peut créer une pierre qu'il peut soulever. Non, mais c'est pas ça la question. Et donc, le Tzohar Tzedek avait répondu, non seulement il peut, mais il l'a fait lorsqu'il a créé le libre arbitre. Le libre arbitre est donc une pierre que Dieu ne peut pas soulever. Maintenant, pourquoi ce n'est pas dérangeant? Parce que le Tzohar Tzedek ne dit pas que Dieu ne peut pas soulever la pierre parce que c'est hors de sa portée, mais parce que Dieu ne veut pas soulever la pierre. C'est-à-dire qu'il a fait un choix de laisser le libre arbitre. Et tant que ce choix est fait, eh bien, le libre arbitre est pour de vrai. Et ça, c'est une dimension fondamentale si on veut comprendre quelle est notre place dans le monde. Le libre arbitre est là. C'est pour nous responsabiliser. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des terroristes du Hamas qui vont faire ce qu'ils vont faire il y a 2 semaines, c'est leur responsabilité. J'entends de plus en plus de gens qui disent « Non mais pourquoi Dieu nous a fait ça ?» Dieu ne nous a pas fait ça. Les gens du Hamas nous ont fait ça. Les terroristes nous ont fait ça. « Ah mais quoi, tu veux dire que la main de Dieu n'est pas présente partout ?» La main de Dieu est présente partout, bien sûr, et je ne comprends pas la hanaga, le dévoilement divin, dans chacune des choses qu'il fait. Je ne suis pas prophète. Mais la responsabilité du mal incombe à ceux qui font le mal. Si Dieu avait voulu faire tomber une pluie de météorites sur les 1400 juifs qui sont décédés, alors on aurait dit, c'est Dieu qui a fait ça et on ne comprend pas pourquoi. Mais là, il s'agit d'hommes qui avaient le libre arbitre et qui ont décidé de faire le mal. Et c'est pour cette raison que nous sortons en guerre contre eux et nous voulons les éradiquer jusqu'au dernier. Parce que nous ne pouvons pas laisser le mal persister dans le monde. Ça, c'était un petit aparté. Quoi qu'il en soit, on revient dans notre histoire. Et donc, on a parlé du Tzemar Tzedek, Chassidut de Chabad. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc, à côté du Tzemar Tzedek, il y a un homme. Il y a un homme qui est une véritable plaque tournante dans le monde de la Chassidut. Vraiment. Tout celui qui étudie un tout petit peu la Chassidut se revendique évidemment de lui. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Horowitz. Mais c'est qui Rabbi Yitzhak Horowitz? Rabbi Yitzhak Horowitz, Rabotai, d'abord il vient de la famille de Rabbi Yishayahu Alevi Horowitz. On avait déjà parlé de lui à Shla Akadosh. Rabbi Yitzhak Horowitz est plus connu, beaucoup plus connu sous son surnom. Il s'appelle Achosé Miloublin. Achosé Miloublin. Alors, Rabotai, le José de Lublin, il naît en 1745, il mourra en 1815. Il est l'élève de Rabbi Elimelech de Lijansk. Direct élève de Rabbi Elimelech de Lijansk, et on l'appelle Achosé Miloublin. Pourquoi? Eh bien, parce que de témoignages de toutes les personnes qui ont vécu à côté de lui, eh bien, il avait cette capacité de lire à l'intérieur de toi, de voir à l'intérieur de toi. Il pouvait donc voir ta neshama, et donc on l'appelait le José. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le voyant. Il y a une agada. Il y a une agada que le jour de Simchat Torah 1814, le José de Lublin est tombé de la fenêtre de sa maison et il en est mort. C'est-à-dire que il en est mort, pas tout de suite, il est tombé de la fenêtre, ensuite il a été paralysé et après 9 mois de combat contre la douleur, eh bien, à Tisha B'Av, il meurt. D'après les chassidim, eh bien, la version chassidique, c'est que il était au bord de sa fenêtre en train de se battre contre les forces de la Touma pour amener la Géoula. Ça, c'est la version chassidique de comment il est tombé de la fenêtre. La version des Mitnagdim, donc vous imaginez, vous voyez la chose venir. Pour les Mitnagdim, c'était Simchat Torah, il a bu et il était ivre et c'est pour ça qu'il est tombé de la fenêtre. Vous voyez qu'on est quand même sur 2 choses complètement opposées, quand même pas mal. on ne sait pas. On ne peut pas savoir, évidemment. Personne n'était présent à ce moment-là véritablement pour savoir pourquoi il est tombé de la fenêtre. Mais le fait est que le José de Lublin va avoir une chita, va avoir une idéologie dans la transmission de la Torah, qui est une idéologie qui va faire force de loi, pas seulement dans le monde de la chassidoute, mais qui va même aujourd'hui se propager dans le monde qui était censé être anti-chassidique. Et c'est quoi cette chita? Eh bien, c'est l'attachement au tzaddik. Pour le José de Lublin, l'homme seul, le pauvre juif comme toi et moi, ne peut pas s'attacher à Dieu tout seul parce qu'il n'est pas au niveau. Donc, il doit s'attacher au tzaddik, qui est tsinor, qui est le câble qui te rattache à Dieu. Et donc, pour le José de Lublin, tu ne peux rien faire sans aller voir ton rabbi. Chaque décision, chaque étude, chaque chose, tu dois être en contact avec ton rabbi. Eh bien, les amis, ça, on va retrouver évidemment cela dans tous les mouvements chassidiques, que si le Rebbe il a pas dit, on va pas, et si le Rebbe il a dit, on va, mais on retrouve ça également dans le monde litaïque, où chaque chose, on va aller demander au rabbi. Et si vous me demandez à moi ce que j'en pense, je suis d'accord. Eh oui, j'ai vu Zachary qui a fait comme ça. Mais je vais vous expliquer quel est mon point de vue que j'ai reçu de mon maître, le Rav Cherki. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, eh bien, dans 40 minutes, vous pouvez dire au Rav Cherki, je suis pas d'accord avec votre chita. Donc, comme ça, je renvoie la balle. C'est très bien. Mais quelle est la chita? Le Rav Cherki nous avait expliqué que, évidemment, quand il s'agit d'une question de halakha, la question ne se pose pas. Bien sûr que si tu as une question de halakha, tu vas voir ton Rav. C'est pas shoot. Ça, c'est même pas une question. Mais la question se pose lorsque tu as une question genre dans quelle école mettre ma fille? C'est-à-dire? Donc, si tu poses une question dans laquelle, il y en a qui vont dire, c'est pas une question qu'on pose à un rabbin, enfin. Chez les chassidim, on pose la question au rabbin parce que le rabbin va nous dire dans quelle école il faut mettre ta fille et tu iras dans cette école-là. Dans le monde litaï, on va retrouver ça aussi. Dans l'enseignement du Rav Cherki, c'est pas ça. Dans l'enseignement du Rav Cherki, c'est tu vas poser la question au Rav et le Rav va te dire débrouille-toi. Alors pourquoi je vais poser la question? Si le Rav va me dire débrouille-toi, parce que je veux que toute ma vie soit connectée avec celui qui m'enseigne la Torah. Et le rôle du Rav, c'est des fois de dire débrouille-toi. Mais c'est pas pareil un débrouille-toi tout seul qu'un débrouille-toi qui vient de celui qui sait que tu peux y arriver et j'ai confiance en toi. Donc c'est en cela que je dis que je suis d'accord qu'il faut être en relation avec toute notre vie, avec notre Rav, mais il faut choisir le Rav qui sera capable de te dire ça, tu peux trouver tout seul. Donc à vous de choisir le bon rabbin. Vous avez l'air ? En tout cas, à José Miloublin, eh bien, va être une plaque tournante dans le monde de la chassidoute, tout simplement. Alors, il ne va pas laisser d'écrit. Ça, c'est assez particulier. Il y a beaucoup d'histoires sur le José de Lublin. Une histoire qu'on raconte comme ça, sur le José de Lublin qui avait l'habitude de se faire couper les cheveux juste avant la fête de Rosh Hashanah. Et un jour, il voit un barbier itinérant et ce barbier ne paye pas de mine. Et il a des cicatrices de partout. Tout le monde a un peu peur de lui et le José de Lublin demande à ce que ce soit lui qui lui coupe les cheveux. Et à chaque fois qu'il lui coupe une mèche de cheveux, le José fait des yichudim. Il dit des choses de Kabbalah extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que chacune des cicatrices, c'est un coup de fouet que cet homme a reçu par les Cosaques, ne voulant pas renier le judaïsme. Et donc il dit, ce sont des mains qui sont Kodesh Kodashim, qui sont en train de me couper les cheveux. Évidemment, tout ça, ce sont des histoires chassidiques. Et vous savez ce qu'on dit des histoires chassidiques. Vous savez pas ce qu'on dit des histoires chassidiques? Eh bien, on va attendre dans quelques minutes d'entendre l'élève du José de Lublin nous dire ce qu'il faut penser des histoires chassidiques. Mais en attendant, on va pas passer sur son élève, on va passer sur son alter ego. Alors, son alter ego, il a 20 ans de moins que lui. Il va naître en 1765, il mourra en 1827. Et il est diamétralement opposé, mais alors diamétralement opposé du José de Lublin. Alors, de qui on parle? Eh bien, on va parler tout simplement d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovitch. Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovitch. Et je le mets avec son élève, parce qu'on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Son élève s'appelle Rabbi Simcha Bounim, ou Bounem. C'est-à-dire, donc, Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovitch et Rabbi Simcha Bounem. Alors, qui sont ces deux personnages, Rabotai? Qui sont ces gens-là? Eh bien, ces gens-là ne sont autres que les rabbins qui ont créé la chassidoute de Psichra. Alors là, je vois des sourcils se relever. Je dis, mais c'est qui la chassidoute de Psichra? Moi, je ne connais pas. Ah, chassidoute de Psichra, c'est Rabbi Yaakov Yitzhak Mipsichra. C'est celui qu'on appelle Ayehudi Akadosh Mipsichra. Et Rabbi Simcha Bounem, on l'appelle le successeur du Yehudi Akadosh. Mais c'est quoi leur chita à eux? Eh bien, c'est la diamétrale opposée du José de Lublin. L'un va se rattacher au Maguide de Meseritch, c'est-à-dire l'attachement au tzaddik, la création d'une dynastie chassidique, alors que l'autre, on pourra beaucoup plus le rattacher, Reb Simcha Bounem et Rabbi Yaakov Yitzhak, à Yehudi HaKadosh, du Baal Shem Tov directement. Pourquoi? Eh bien, parce que toute la Shita de Chassidut Psichra, c'est de venir dire Kol Yehudi Kadosh. Et tu n'as pas besoin du rabbi pour te rattacher à Dieu. Pas besoin. Zéro. Ata Kadosh, t'as l'autre sac Mishua Kher. Et ça, c'est une révolution. C'est véritablement une révolution. Pourquoi c'est une révolution? Parce que dans le monde juif, jusqu'à maintenant, il faut bien comprendre que Rabbi Simcha Bounem, qui va avoir beaucoup plus d'influence en termes de nombre que le Yehudi HaKadosh, c'est lui qui va faire en sorte qu'il y a un nombre innombrable de chassidim qui se rattachent à lui. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que jusqu'à maintenant, si tu n'as pas d'argent, ou alors, si t'es pas avec un QI de 150, tu étudies pas la Torah et t'es pas considéré. On peut se la jouer autant qu'on veut. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Parce que si t'as pas beaucoup d'argent pour pouvoir aller étudier la Torah loin de chez toi, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va subvenir aux besoins de ta famille, tu vas pas étudier la Torah. Et, à la limite, on va pouvoir te financer pour que tu ailles étudier si on pense que tu es un mec qui vaut le coup. Mais dans la grande majorité des Juifs en Europe de l'Est, au XVIIIe siècle, les gens sont pauvres, les gens sont paysans, et vous allez me dire, non mais les Juifs, ils ont toujours été érudits. Non, en Europe de l'Est, la majorité des gens, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils sont des paysans, et ils ne sont pas du tout les gdolé olam, chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que quand on parle « Ouais, mais la chassidoute à l'époque, c'était des milliers de personnes !» Que les choses soient bien claires, dans la première génération des chassidim, s'il y a 10 pelés et 3 tondus qui sont à côté de chaque rabbi, c'est beaucoup. C'est-à-dire, mais la chassidoute va prendre un essor énorme sous l'impulsion de Reb Simcha Bounem, parce qu'il vient te dire « Mais t'as pas compris !» Il faut simplement que tu te rattaches à ta Neshama. Parce que chaque juif est kadosh et il a la possibilité de s'attacher à Dieu, même s'il ne connaît pas la Torah. Fais confiance à ta neshama. Pashut. Et ça, les amis, ça parle. Alors évidemment, vous comprenez tout de suite quel est le danger de cela. Bien sûr. C'est-à-dire que si on comprend le danger de l'élitisme lituanien, on comprend tout de suite aussi quel est le danger de la shita de Reb Simcha Bounen. C'est de dire, ok, bah alors étudie pas, tu connais rien, mais kadosh, kadosh, kadosh. On voit tout de suite la problématique que ça va créer, et ça a créé, des gens qui pensent connaître le judaïsme, qui disent plein de choses au nom du judaïsme, et qui sont dans l'erreur complète. Parce qu'ils connaissent pas. C'est-à-dire ? Et c'est tellement facile de manipuler des gens qui connaissent pas. Donc on voit tout de suite quel peut être le danger de cela. Et ça va donner énormément d'eau au moulin des mitnagdim. Reb Simcha Bounen, c'est le pain béni des mitnagdim. Alors comment on fait pour dire « Non, non, c'est beseder, c'est ken kadosh » Parce que lui, le fondateur, Reb Simcha Bounen, lui, il est Talmid Chacham. Ça ne vient pas d'un mec qui ne connaît rien, qui dirait, pour se sentir bien, « Bon, c'est pas grave, tu ne connais rien, mais t'es kadosh. » Non, non, lui, il est Talmid Chacham. Mais il veut nous expliquer que si on veut s'attacher à Dieu, eh bien le sechel, ça passe après la neshama. Azelo Pashut. Vous comprenez qu'il s'agit ici de toute une shita, de tout un idéal de la Torah. Alors maintenant qu'on a parlé de ces deux antagonistes, si on peut dire, entre le José de Lubim et Reb Simcha Bounen, eh bien, il y a un autre personnage. Un autre personnage qui, comment vous dire, il va avoir une influence énorme. Il va avoir une influence énorme, 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 pour une raison très simple. Il va être le premier à avoir dans sa façon d'enseigner la Torah, alors qu'on est chez les Chassidim, eh bien, dikdukim, c'est pointilleux, voilà. Il est extrêmement pointilleux sur le limoud. Et ça, on n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu ça, à part peut-être chez le Admour Hazaken, effectivement. Mais on avait expliqué à l'époque que Chabad, c'était à mettre de côté par rapport aux autres Hassidouyot. Mais lui, Reb Shalom Rokach, mi Belz, qui va créer la grande Hassidoute de Belz. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes Hassidouyot avec Gour, mais Gour, ça vient de Belz. Eh bien, vous avez ici un homme qui vient, qui ramène le limoud Torah à l'intérieur de la formation chassidique. Il ne s'agit plus seulement d'aller voir le Rav, il ne s'agit plus seulement de te rattacher à ta neshama, tsarir l'ilmod Torah. Et ça, eh bien les amis, ça vient du fait qu'on assiste à un début de retrouvaille entre les chassidim et les mitnagdim. On ne parlera pas de lui aujourd'hui, on en parlera la prochaine fois, mais l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Volozhin, va instaurer le début des retrouvailles entre les chassidim et les mitnagdim. Et il est évident que ça va jouer d'influence lorsque tout d'un coup les rabbins chassidiques se mettent à enseigner qu'il faut étudier. Chose qu'on n'avait pas entendue depuis le début de la chassidoute. Encore une fois, les rabbins chassidiques eux-mêmes étaient des érudits de folie. Il n'y a qu'à lire leurs bouquins. Mais on n'avait pas cette transmission que c'est ce qu'il faut faire. Ici, c'est pour la première fois, ça passe. Zéo. Tsarir l'ilmod Torah. Donc Reb Shalom Rokach, qu'on appelle également à Admour Arishon. C'est-à-dire le premier admour de la Shoshelet de la dynastie de Belz, et de Belz vont sortir quand même pas mal d'autres chassidouyot, donc ça veut dire que c'est vraiment un bonhomme très particulier. Ça a l'air. Les chassidim de Belz vont être également très connus pour les nigounim. Alors, c'est pas les premiers à inventer des nigounim, hein, bien sûr que non, mais c'est eux qui vont être les premiers à inventer beaucoup de nigounim. Et une grande partie des nigounim chassidim qu'on connaît, ce sont des nigounim de Belz. Même si on le sait pas toujours. Mais ça a l'air, donc c'est une Torah qui est extrêmement riche, même si, il faut le dire, le Admor HaRishon, Reb Shalom Rokach, il ne va pas écrire de bouquin, l'Amrot, que tous ces enseignements vont être retransmis par ses élèves, par son fils, et donc finalement, on va avoir 5 livres qui vont être la Torah du Rabbi de Belz. C'est-à-dire 5 livres qui vont s'appeler l'un Maharash, Moreinu Harav Shalom Rokach. Il y a un autre livre qui va s'appeler Midbar Kadesh, ou alors un autre livre Likute Imre Kodesh, Biure Achasidut Ve'Abina Ve'Aberacha, qui est le livre le plus important de la chassidoute de Belz. Donc, si vous voulez, on a ici, pour la première fois, une chassidoute qui met un accent très important sur le limoud à Torah. Donc, on avait le José de Lublin, l'attachement au tzaddik, Reb Simcha Bounem, l'attachement à la neshama, t'as pas besoin du tzaddik, Rabbi Shalom Rokach, l'importance du limoud à Torah. Jusqu'à ce qu'arrive le balaganiste. Parce qu'en fait, mis à balaganiste, un homme qui décide de tout chambouler. Un homme qui dit, moi, tu me laisses tranquille. Tout ce que tu croyais être le standard normal, moi, je m'en fiche. C'est un peu compliqué, cette histoire. Nahon. C'est un peu compliqué, mais en mala asot. On va parler d'un des piliers, mais piliers mamash, de la chassidut, qui s'appelle Reb Naftali Tzvi Mirupchitz. Reb Naftali Tzvi Mirupchitz. Alors là, les amis, comment vous dire? Reb Naftali Tzvi Mirupchitz et son élève Rabbi Mordechai Yosef Leiner sont des gens qui te disent tout ce que tu croyais savoir. Je vais remettre en cause tout ce que tu sais pour que tu saches vraiment. Et il va écrire un livre fantastique qui s'appelle Zera Kodesh. Son élève écrira un autre livre fantastique aussi qui s'appelle Me Ashiloach. Et tous ces deux livres-là, ces deux rabbins-là, que ce soit Reb Naftali Tzvi Mirupchitz ou alors Rabbi Mordechai Yosef Leiner Baal Mea Shiloach, vont prendre toutes les sougyotes de la Torah et vont dire ce que tu croyais être évident, ça ne l'est pas, et ce que tu croyais être évidemment pas, ça l'est. Je vous donne un exemple. On va trouver par exemple dans le Mea Shiloach. Vous connaissez l'histoire de Zimri et de Pinchas. Nahon ? Pinchas qui va tuer Zimri parce que il s'adonne à ce qui s'adonne avec Cosby, la prostituée en chef des Midianim. Mais dans la paracha donc de Roukat et Balak. Eh bien, alors qu'il paraît évident pour tout le monde que le good guy c'est Pinchas et que le méchant c'est Zimri, nous dit le Baal Mea Shiloach, je remets pas en cause Pinchas qui a voulu venger Dieu. Mais Zimri, il a raison. C'est quoi il a raison? Zimri, il vient proposer à Moshe une solution au problème existentiel. Je vous rappelle qu'on est dans une époque où les Bnot Moav, Bnot Midian sont venus mettre un camp de prostituées à côté des Bnei Israël. Et les Bnei Israël, ça donne un cœur joie. Et c'est n'importe quoi. Et il y a une grande épidémie à cause de cela. Dieu pas content. À ce moment-là, nous dit le Baal Mea Shiloach, Zimri vient avec la chef des prostituées, alors que jusqu'à présent, les Bnei Israël sortaient du camp d'Israël pour aller faire leur petite affaire dans la grande maison close des Midianim. Lui, Zimri, qui est le chef de la tribu de Shimon, il prend Cosby et il l'amène à l'intérieur du camp d'Israël et il va faire sa petite affaire avec elle devant le Mishkan, aux yeux de tous. Ouh là là ! Et là, alors que tous les anciens d'Israël se mettent à pleurer, Moshe ne réagit pas. Rashi nous dit que Zimri lui dit à Moshe, « Si la mienne m'est interdite, ma Midianite à moi, qui t'a permis la tienne ?» Je te rappelle que toi aussi, t'es marié avec une Midianite. Donc pourquoi est-ce que la mienne serait interdite ? Ça, c'est Rashi. Nous dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner, l'élève de Rabbi Naftali Tzvi Mirupchitz, il dit, mais t'as pas compris. Moshe, le problème, c'est quoi ? C'est Avodah Zara. C'est que lorsqu'on va faire notre petite affaire avec les filles de Moab, il se trouve que c'est aussi l'endroit de Baal Peor, de l'idolâtrie de Baal Peor. Donc, le problème, c'est quand on sort du camp, eh bien, on est face à l'idolâtrie. Faisons rentrer les filles dans le camp d'Israël, comme ça, il n'y aura plus d'idolâtrie. Puisque nous dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner, à l'époque de la Torah, c'est pas encore interdit d'avoir une relation comme ça, vite fait, avec une non-juive. Ce qui est interdit, c'est de se marier avec elle. Donc il dit, voilà, c'est peut-être pas très très joli, mais ça donne une solution à l'idolâtrie. Alors, évidemment que ni Rabbi Naftali Tzvi Mirupchitz, ni Rabbi Mordechai Yosef Leiner pensent que c'est bien ce qu'il a fait Zimri. Mais ils viennent te dire, mais tu vois, il n'est pas complètement pourri le bonhomme. Il a envie de trouver une solution pour Kedushat Israël. Mais sa solution amène d'autres problèmes. Très bien, donc Pinchas est arrivé. Mais c'est une chita dans la Torah qui vient dire, ne crois pas tout ce qui est une évidence. Remets en cause. Et ça, c'est une chita fantastique. Remets en cause. Il n'y a rien que tu dois prendre pour une évidence et pour argent comptant. Tu dois te creuser la tête et remettre en cause des choses parce que peut-être qu'il va falloir le comprendre autrement. C'est clair ? Donc ça, c'est la chita du rabbi de Ishbitzer, rabbi Naftali Tzvi Mirupchitz. Lorsqu'on parle de tous ces gens-là, eh bien, il y a un personnage qui est à la fois l'élève, on a dit, du José de Lublin et de Reb Meir Simcha Bounem de Psichra. Pourtant, deux personnalités complètement différentes, mais il va puiser de l'un comme de l'autre. On parle d'un homme, on a dit tout, on a tout dit sur lui. C'est-à-dire, on a tout dit. Mais on parle d'un homme absolument incroyable, qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, les amis, que vous compreniez de qui on parle, je vais vous citer une phrase de son enseignement, et vous aurez compris qui c'est. Lorsque l'homme naît, il apprend à parler. Lorsqu'il grandit, il apprend à se taire. Combien dommage que l'homme apprenne à parler avant qu'il n'apprenne à se taire. Voilà. C'est un homme qui dira également, celui qui dit un mensonge détruit le monde entier. À Kotzker, Rebbe Nachem Mendel de Kotzk c'est une droiture à toute épreuve. C'est une intransigeance dans la Avodat Hashem. Il n'y a pas à gauche et à droite. Ça, c'est le Kotzker. À tel point que voyant que ses élèves n'arrivent pas à suivre son exemple, il décide de s'enfermer pendant les 20 dernières années de sa vie. C'est pas une blague, hein. Il s'enferme pour de vrai. Il s'enferme dans sa maison et il ne sort pas de sa maison pendant les 19 dernières années de sa vie. Parce que, ah, évidemment que c'est poussé à l'extrême, hein. Et évidemment qu'au final, personne ne se revendique d'être le successeur du Kotzker. Et pourtant, dans tout le monde chassidique, on dit qu'on a besoin d'un peu de Kotzk. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. À Kotzker, c'est la droiture ultime. Et alors, si on parle de Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, je ne peux pas ne pas vous raconter une anecdote personnelle. Puisqu'il nous reste 4 minutes avant les questions, je suis obligé de vous raconter l'anecdote. Il y a des années, je suis parti pour guider un groupe en Pologne. C'était, si je me souviens bien, l'école de Pavillon-sous-Bois, de l'Alliance de Pavillon-sous-Bois. C'était un grand groupe, il devait y avoir 2 bus, donc on était parti à 2 guides. Et notre avion à nous est arrivé à 10h du matin à Varsovie. Et l'avion des jeunes de France devait arriver à 10h du soir. Enfin, il devait arriver plus tôt, mais il y a eu un bug et on a appris qu'ils arrivaient qu'à 10h du soir. Résultat des courses, on était là, on avait 12h sur place. Donc on s'est dit, bon ben la journée est foutue, on peut aller à l'hôtel, on pose nos affaires et on se fait une journée hôtel. Mais finalement, on a décidé que non. On a mis nos valises dans la bagagerie de l'aéroport, on a été louer une voiture et on a été se balader, bon, pas pour visiter la Pologne, mais pour aller dans les endroits où on n'ira pas avec des groupes. Et à un moment donné, on arrive dans la ville de Kotzk. On arrive dans la ville de Kotzk, après avoir passé toute une matinée, il était déjà 3h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, après avoir passé toute la matinée à voir des petits villages et des petits villages, et à s'imprégner de la chassidoute et de la vie juive qu'il y avait dans ces endroits-là, on arrive dans le village de Kotzk. Bon, d'abord, quand tu arrives à Kotzk, tu as l'impression qu'ils ont découvert l'électricité il y a 2 jours. C'est le petit village de Pologne. Il y a 2 rues. Bon, j'exagère un petit peu, mais pas beaucoup. On avait un petit livre qui s'appelait « Les Juifs de Pologne ». Et donc, dans ce petit livre, il y avait une photo de la maison de Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Maison reconnaissable entre toutes parce qu'elle était ronde. Donc, bah, on a fait les 2 rues et puis on est tombé sur la maison. Pour nous, il n'y avait rien d'autre à chercher. Dans notre bouquin, on ne voyait rien d'autre. Donc, on a été devant la maison et on est sorti de notre voiture. On a commencé à se prendre en photo devant la maison. C'était le mois de mai. Il faisait beau, voire même chaud. Et au moment où on se prend des photos comme ça, sort de la maison un Polonais, torse poil, de 3 mètres sur 2. Et donc on se trouve nez à nez avec lui, il habite là, et il nous voit avec nos kippotes, nos tzitzit, et il essaye de communiquer avec nous, et il nous dit « Jodowski ?» Genre « Jews ? Vous êtes juifs ?» Comment Salomon, vous êtes juif? Eh bien, on lui répond oui. Et là, il y a un blanc. Est-ce que ça va être le début d'une attaque antisémite? Est-ce que on doit se préparer à faire quelque chose? Il nous dit 2 phrases en polonais. on maîtrise pas trop bien le polonais, on essaie de lui parler en anglais, il maîtrise pas du tout. Il nous regarde et il nous dit Tchadik? Tchadik? On a pensé qu'il voulait dire Tzadik. Donc on lui a dit. Et à ce moment-là, il fait. Il rentre dans la maison. Il revient au bout de 2 minutes avec un t-shirt et une casquette. Il sort de sa maison et il se met devant notre voiture. Et il nous fait. OK. Il s'assoit à la place passager. Mon copain, il s'assoit pour conduire et il me dit, tu te mets derrière lui. Si jamais il fait un geste bizarre, tu le chopes par derrière. Et on monte dans la voiture. Et on commence à rouler. Et on sort de la ville. Et au bout de, je sais pas, 5 minutes, on roule. On est en train de passer à côté d'une énorme forêt. Et là, le Polonais, il nous fait comme ça, tourne, 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 va dans la forêt. Il n'y a même pas de route. Et là, mon copain, il me regarde, je dis, bah, vas-y, tourne. Et on tourne. Et là, il me regarde et il me dit pas, tu vois, c'est de la télépathie. Il me dit, en télépathie, des histoires de Polonais qui amènent des Juifs dans la forêt, en général, ça finit pas bien. Donc, télépathiquement parlant, il me dit, je te redis que s'il bouge, tu le chopes par derrière, tu l'étrangles. On roule dans la forêt pendant 2-3 minutes. Et à un moment donné, le mec, sans crier gare, il dit stop ! On arrête la voiture. Il sort de la voiture. Il marche 20 mètres. Et tout d'un coup, en plein milieu de rien, un grillage. Et de l'autre côté du grillage, la tombe de Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Et le mec, il se met devant le grillage, il enlève sa casquette, il la met comme ça sur son cœur et il dit « Tchadik ». On a grimpé le grillage, on s'est mis devant la tombe et on a fait des tfilotes de folie. Et après, ça c'est l'histoire, le ressenti, c'est qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une connexion avec cette force de l'intransigeance dans la Avodat Hashem que nous a enseigné Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Donc, si je dois résumer ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'histoire de la Kabbalah, eh bien, on a vu, en fait, 5 dimensions de ce qui va créer la chassidut qu'on connaît aujourd'hui. L'attachement au tzaddik, numéro 1. La kdusha de la neshama, numéro 2. La force du limoud, numéro 3. Remettre tout en cause pour mieux apprendre, numéro 4. Et l'intransigeance dans la Avodat Hashem. Ce sont les 5 piliers de la chassidoute au 18e siècle, fin 18e, début 19e siècle, qui vont créer le monde chassidique. Parce qu'encore une fois, avant cela, la chassidoute, c'est petit. Le boom démographique de la chassidoute, c'est ces 5 personnages et un 6e, mais que j'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui, qui est un tout petit peu plus tardif, qui est une génération plus tard, donc on se le garde, qui s'appelle Rabbi Israël Friedman Mirugin, mais ça, c'est encore une autre dimension qu'on verra à un autre moment, et je laisse la place pour les questions. À vous de jouer. Vous pouvez rallumer les micros. Il nous reste 6 minutes.
Alors moi, le temps que ça se chauffe, première question, le libre arbitre, le Rambam aussi, il en parle de manière claire. Non ?
Bien sûr. Le Rambam en parle, la Torah en parle, bien sûr. Le problème, c'est quoi ? C'est que le Rambam, quand il en parle, il te dit... Oui, mais te prends pas la tête sur le fait que tu dis que tu as le choix, mais qu'en fait, Dieu, il sait. Donc, en fait, il dit, il y a le libre arbitre, mais en fait, il y a un problème avec le libre arbitre, mais te prends pas la tête. Si bien que le Ra'avad, il dit sur le Rambam, lo na'ag aravaze minag achachamim. Parce qu'il nous a dit un truc, après il nous a dit le contraire, il nous a dit laisse tomber, c'est pas grave. Donc compliqué.
Bonjour. De demander à un rave ce qu'il faut faire, ce n'est pas perdre sa liberté individuelle, ce n'est pas créer un gourou au sein du judaïsme.
Ah, c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre halakha et anaga. Halakha, bon bah évidemment, d'où est-ce que tu apprends la halakha ? De ton rave. Donc la halakha, tu la connais, elle ne pousse pas sur les arbres. Donc évidemment que pour des questions de halakha, tu dois demander à ton rave, ça, je pense qu'on est tous d'accord.
D'accord.
Là, hein, on est d'accord.
Oui.
Voilà.
Entièrement.
Maintenant, la question, elle se pose sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais qu'il faut aller voir son rave pour chaque chose. Mais c'est pas pour lui demander parce qu'il va me dire quoi faire. J'ai dit, je suis pas dans l'idée, comme dans le monde de la chassidoute où on dit, et on va demander au rebbe, est-ce que le rebbe, il dit, on fait. J'ai dit, il faut choisir le rabbin de telle sorte que tu sais que lorsque tu lui demandes ce genre de choses, il va te dire de te débrouiller. Donc en fait, c'est pas parce que tu vas pas lui demander parce que tu veux, tu te déresponsabilises, voilà. Et c'est lui qui te dit quoi faire. Mais tu veux que chaque décision de ta vie soit en connexion avec la Torah. Et celui qui te connecte à ta Torah, ben c'est ton Rav. Je te donne un exemple très concret. Lorsque je me suis fiancé, le lendemain, j'ai été voir le Rav Cherki. Et je lui ai dit, Rav, je voudrais vous présenter ma fiancée. Je me suis fiancé, voilà, Mazal Tov, je voudrais vous présenter ma fiancée. Et le Rav m'a répondu, Lama. Je lui ai dit, bah, comment ça, Lama ? Il dit, si tu veux mon avis sur ce que je pense d'elle, parce que je te connais, que je vais lui parler un peu et je te donne mon avis, c'est trop tard. Tu l'as déjà demandé en mariage. Et si tu l'as déjà demandé en mariage, c'est que tu es sûr. Alors pourquoi tu me fais perdre mon temps ? Alors, je savais pas quoi répondre. Et il m'a dit, bon, ben amène-la, on fera les chaïm.
Ah, très bien. C'est un bon rabbin.
Voilà, j'ai bien choisi. Oui.
En fait, est-ce que le rav est le miroir de l'âme de la personne qui vient le voir et qui lui renvoie un reflet de ce qui est juste pour lui ou pour elle?
Ça devrait, c'est ça qui devrait être.
Mais est-ce que ça n'a pas pris chez certains une dimension plus vicieuse, c'est-à-dire que il n'y a plus rien, ils se déresponsabilisent complètement, ils savent attends, je demande au rabbin.
Il y a un grand danger là-dessus. Il y a un très grand danger, bien sûr. On sait très bien qu'il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils demandent tout et n'importe quoi à leur rabbin et que c'est les rabbins qui décident tout pour eux. Bien sûr que la dérive, elle existe, on la connaît.
Même la couleur de la voiture.
Le truc, le machin, le bidule, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est tellement plus facile de vivre en tant qu'esclave.
Ben oui.
Est-ce que c'est pas le rôle d'un père ? Tout ça, vous définissez la définition parfaite d'un père.
Mais vous avez père. Tout à fait raison. Je vous rappelle que le meilleur rabbin,
c'est votre père.
Papa. Mais est-ce que c'est pas le rôle
Parce
le rôle
que quand vous allez voir le rabbin, il vous dit, t'as décidé ça, c'est bien ou c'est mal, mais ça n'a pas d'importance puisque tu l'as déjà décidé. Donc il faut en faire le mieux possible. C'est tout.
Bien sûr. Bah, non, des fois les gens, ils n'ont pas forcément décidé. Mais l'important, c'est que le rav, il te dise, tu peux y arriver tout seul. T'es un grand garçon.
Mais c'est le père, ça. C'est le père définitif.
Bien sûr, mais encore une fois, le père, s'il peut être aussi ton rav, c'est Metsuyan. C'est le top.
Mais le problème, je voulais vous poser une question embarrassante. Oui. Si le rav vous avait dit non, ne te marie pas, qu'est-ce que vous auriez fait ?
Eh bien, les amis, j'ai choisi un rabbin qui ne m'aurait pas dit ça.
Justement, ça rejoint. Je vais poser la question après.
Comment se fait-il qu'il y ait des rabbinim, des raves, qui justement aiment cette situation ?
Il y a des gens, et je ne vais pas les appeler, on va terminer par là, mais il y a des gens, et je ne vais pas les appeler des rabbins, il y a des gens qui aiment avoir le contrôle sur d'autres personnes. Et qui, des fois, vont se servir de la crédibilité, de ce que les gens vont leur donner comme puissance. et vont essayer de garder le contrôle un maximum, un maximum. Et le meilleur moyen de garder le contrôle, c'est de dire aux gens, mais moi, j'ai lu dans les sphères supérieures que la troisième lettre de ton nom et la deuxième lettre de son nom, ça crée le mot « ra ». Et donc, si vous êtes ensemble, ça amènera le mal dans le monde. Donc, il ne faut pas être ensemble. Par contre, moi, j'ai une fille et je pense que c'est plus important que machin. Bon, on la connaît l'histoire. Il y a des charlatans partout. Il faut faire très attention, évidemment. N'oubliez pas que le judaïsme pense que tu es « chacham ». Donc, on ne va pas tomber là-dedans.